Le débat africain. Alain Foucault.
Celui qui deviendra leader en ce domaine sera le maître du monde. Ces propos du président russe Vladimir Poutine nous éclairent davantage sur la rude bataille que se livrent les grandes puissances depuis quelques années pour en devenir les maîtres. Ils illustrent également combien il est devenu un outil puissant sur les plans économiques, politiques et militaires. L'intelligence artificielle est à coup sûr l'instrument qui déterminera l'ordre international dans les décennies à venir. Ce qui explique les importants moyens, les colossaux investissements que lui consacrent les grandes nations et les stratégies quasi de guerre qu'elles élaborent afin de maîtriser cette activité multidisciplinaire. Et l'Afrique, qui s'annonce déjà comme un grand terrain d'affrontement, clairement menacé de cybercolonisation, est-elle prête à faire face? A-t-elle compris, ou plutôt les dirigeants ont-ils compris les enjeux cette fois-ci? Puisque les jeunes, eux, semblent au rendez-vous. Et comment s'organise globalement le continent pour ne pas être le terrain de jeu, la cybercolonie des grandes firmes venues du Nord? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré à la stratégie de l'Afrique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec plusieurs invités, plusieurs professionnels du domaine au téléphone dans quatre pays. D'abord, Rebecca Ononchon, la PDG d'Abstech, qui prépare le lancement d'une plateforme de solutions de gestion basée sur l'intelligence artificielle, société basée à Washington DC. Rebecca est en direct de Douala. Bonjour Rebecca Ononchon.
Bonjour Alain, bonjour.
Merci d'être là. Second invité de ce plateau consacré à l'intelligence artificielle, Tidiane Ndem, associée générale à Partech Africa, une société dédiée au financement, aux levées de fonds pour les startups africaines. Bonjour Tidiane Ndem.
Bonjour Alain, merci de m'avoir.
C'est nous qui vous remercions. Notre troisième invité en direct de Montréal au Canada est Abdoulaye Baniré Diallo. Il est le directeur du laboratoire de bioinformatique de l'Université du Québec à Montréal. Il est le cofondateur de My Intelligent Machines, une start-up intégrant génomique, bioinformatique et intelligence artificielle. Bonjour Abdoulaye Baniré Diallo.
Bonjour Alain Coca, c'est un plaisir d'être ici.
Partagé. Notre quatrième invité en direct de Dakar au Sénégal est Moustapha Cissé, le directeur de Google Artificial Intelligence au Ghana et directeur du programme Master en Machine Intelligente au Rwanda. Bonjour Moustapha Cissé.
Bonjour Alain.
Je suppose que vous êtes à Dakar.
Je suis bien à Dakar.
Voilà. Alors je sais que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, beaucoup encore, notamment quelques dirigeants d'un certain âge et pas qu'en Afrique, se demandent ce que c'est. En quelques mots, peut-on le définir en français facile? Là, je m'adresse à Rebecca. Comment on peut définir l'intelligence artificielle?
Disons, c'est essayer de reproduire par une machine la manière de réfléchir d'un être humain qui est intelligent. C'est-à-dire de regrouper, qui a la capacité de regrouper un certain nombre d'informations et de les classifier d'un côté, de les comprendre, et même de prédire certaines actions sur la base d'informations que cette machine a. Et donc, c'est à la base d'un grand nombre de données que la machine aura pu analyser avant donc de pouvoir donner des informations intelligentes.
C'est-à-dire, on veut que la machine devienne plus intelligente que l'homme, en gros. Il va faire le travail de l'homme, en gros, dans quelques temps.
Disons qu'il peut assister l'homme. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça va remplacer l'être humain. Il y a des domaines dans lesquels ça peut remplacer l'être humain, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que on sera un monde de robots.
De robots.
Où les gens vont perdre leur emploi parce qu'il y a des machines qui le font plus vite. Je ne suis pas de ceux-là qui le pensent. Mais je pense que quand même, ça a un rôle très très important dans notre futur.
Alors, pour que l'on comprenne bien les enjeux, on voit bien qu'au cours des 15 derniers mois, la France, la Chine, le Danemark, la Commission européenne, la Finlande, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique, la région nordique et balte, Singapour, la Corée du Sud, la Suède, Taïwan, les Émirats arabes unis, les Royaumes-Unis ont tous publié des stratégies pour promouvoir l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle. Ces stratégies varient autour de l'éducation, la recherche et le développement, les infrastructures numériques, les services publics et même l'éthique. Où en est l'Afrique? Là, je me tourne vers Moustapha Cissé. Où en est l'Afrique dans ce domaine-là?
C'est une très bonne question. Je pense que la plupart des initiatives sur le continent africain sont heureusement ou malheureusement, ça dépend de quelle perspective on a sur la question, portées par ou des privés ou des institutions axées sur l'éducation, plus que par des États. Alors, ceci n'est pas une exception lorsqu'on considère le cadre plus général de la technologie. Je veux rappeler juste qu'aucun État en Afrique n'investit 1% de son produit national brut dans la recherche scientifique.
Pas un seul qui investit 100%, même pas ce que l'on présente comme très très tourné vers, les nouvelles technologies comme le Rwanda.
Pas un seul.
Pas un seul.
Pas un seul.
Et en comparaison, les autres font quoi?
Alors, ça dépend de là où vous êtes, mais les investissements dans la recherche dans les différents pays sont absolument plus conséquents que ce qui se passe ici. Il est intéressant de noter que les pays qui sont considérés comme les pays développés, les pays où il fait le mieux vivre, correspondent exactement aux pays qui font de gros investissements dans la recherche scientifique, et puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, donc de l'intelligence artificielle aussi. C'est un constat qu'on fait, qui est regrettable en Afrique. Donc la majeure partie des initiatives viennent du secteur privé, donc de personnes comme Rebecca par exemple, des entrepreneurs, mais aussi d'institutions d'éducation dans lesquelles nous travaillons, mais pas encore des États. Les États ne soutiennent pas encore l'initiative dans cette direction, même s'il est clair que nous avons une opportunité assez extraordinaire au vu de la disponibilité de l'information et de la science par l'Internet, de rattraper un retard.
Mais essayons de comprendre pourquoi les États ne s'y intéressent pas vraiment. Est-ce parce que les dirigeants ne comprennent pas les enjeux? Est-ce parce que ça coûte cher, Abdoulaye Banyeri Diallo?
Je pense que c'est un mélange des deux. Des experts comme Moustapha ou moi passons le temps à expliquer les retombées de ce genre de technologie-là. Et surtout, il faudrait réussir à faire un mapping pour montrer que ce n'est pas pour le futur, mais c'est pour résoudre des problèmes qui sont actuels. Par exemple, dans les ministères, on a une masse d'informations qui sont collectées. Ces informations-là servent à prendre des décisions. Et généralement, un humain ne peut pas emmagasiner toutes ces informations-là avant de déduire un raisonnement.
Or, la machine va beaucoup plus vite lorsqu'elle a toutes ces données. C'est bien ça?
Oui.
Mais est-ce que quand vous expliquez ça aux dirigeants, ils le comprennent?
Plusieurs le comprennent et plusieurs mesurent l'enjeu. Et à ce moment-là, on tombe dans le deuxième volet, qui est le volet du qui finance ça. Parce que ce financement n'inclut pas seulement le financement de la technologie en tant que telle. Il faut inclure dans ce financement-là la formation de personnel qualifié, l'éducation, les infrastructures pour supporter ces calculs numériques-là.
On va en parler. Mais déjà, la volonté politique, est-ce que vous l'avez senti un peu? Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants africains comprennent de quoi il est question et ont envie avant de manquer de moyens?
La volonté politique est liée pour plusieurs des pays dans lesquels j'ai eu à avoir des contacts.
Lesquels, par exemple?
Mais, actuellement, on a des projets en Afrique du Sud. Dans ce cadre-là, des projets qui démarrent au Rwanda. Dans mon propre pays, en Guinée, il y a des initiatives dans cette direction-là, et au Sénégal également.
Alors là, je me tourne vers Tidiane Ndem. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ont plus pris conscience de cela, se lancent dans ce domaine un peu plus?
Ah oui, très clairement. Le point de vue un peu pragmatique de l'investisseur, pour moi, c'est que nous avons vu ces dernières années un changement très clair, très important. L'intelligence artificielle est passée de l'état d'un sujet abscon, très pointu, à tout à coup quelque chose qu'on retrouve dans tous les projets, notamment avec l'avènement du machine learning. En tout cas, sous certaines formes, l'intelligence artificielle est devenue une commodité disponible dans la plupart des projets. Et nous voyons des applications concrètes, je dirais, dans 10% des projets que nous recevons, des applications concrètes de l'intelligence artificielle dans des domaines qui vont de l'accès aux services financiers, à la santé, la logistique, la mobilité urbaine, l'éducation, la manufacture, parce que particulièrement en Afrique, où un des grands obstacles est l'accès aux données de manière structurée pour de la prise de décision ou de l'amélioration de l'efficacité, l'intelligence artificielle permet de traiter cette masse de données et d'en tirer de la valeur concrète et monétisable, excusez le barbarisme, monétisable dans des projets.
Alors, aujourd'hui, vous évoquez plusieurs aspects, la formation, le financement, le regroupement et la structuration, l'accès aux données et également la volonté politique. Là, je me retourne à nouveau vers Rebecca. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique en ce moment et vous rencontrez les jeunes, vous rencontrez ceux qui se lancent. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils, même s'ils ont conscience que c'est cela l'avenir, est-ce qu'ils sont formés? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine?
Donc, en fait, je pense que l'initiative que par exemple Google a d'un centre AI sur le continent,
ce AI, ça veut dire intelligence artificielle.
Mmh. Oui, excusez-moi. c'est un début. Et je pense que ce genre d'initiative devient extrêmement important. Je sais que nous, ici au Cameroun, ce qu'on a fait, donc avec Abstract Lab, qui est en train de développer l'application que vous avez évoquée dans mon introduction, on est obligé de former du B.A.B.A. Je pense que de manière théorique, certains des étudiants, lors de leur parcours étudiant, des développeurs ont eu des notions d'intelligence artificielle, mais pas vraiment de pratique. Et donc, des projets où ils peuvent s'entraîner, où ils peuvent travailler, on est tous obligés, à notre niveau, chacun, d'apporter une pierre. Et si notre pierre, c'est donc d'embaucher des jeunes et de les former à notre niveau, en attendant que les États participent dans ces projets, je pense que c'est comme ça qu'on doit commencer. Mais il y a très, très peu de ressources formés, qui ont de l'expérience dans ce domaine, et il y a vraiment du travail à faire.
Alors, quand un jeune vous entend en disant « il faut qu'on les forme, il faut qu'on les amène à comprendre ce qui se passe, à avoir la science », dans quoi on forme exactement, Moustapha Cissé? Qu'est-ce qu'il faut faire là, tout de suite, pour que ces jeunes-là se dirigent vers vous, pour qu'ils viennent vers vous? C'est dans quel domaine exactement? Parce que c'est large, l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle n'est pas en soi une science complètement nouvelle qui sort ex nihilo de nulle part. Là. Mm-hmm. Le machine learning, qui est la catégorie d'intelligence artificielle la plus en vue en ce moment, est en réalité un concentré de mathématiques appliquées et d'informatique. Mm-hmm. Et ce sont des domaines qui malheureusement sont le parent pauvre de l'éducation supérieure en Afrique aujourd'hui. Cela ne résulte pas d'un manque d'appétit des jeunes Africains. Je pense que c'est important de le préciser, parce que souvent, lorsqu'on parle de science en Afrique, on parle d'un déclin de la science dans l'éducation supérieure, mais ça ne provient pas d'un manque d'appétit. Je vais vous donner juste un exemple. C'est que nous, l'année dernière, quand on a lancé la première cohorte de l'African Masters of Machine Intelligence, on a reçu 7000 candidatures. Il n'y a pas un département d'informatique dans le monde qui reçoit autant de candidatures pour un programme d'intelligence artificielle. Ou en tout cas, s'il y en a, il y en a très peu. Donc malheureusement, au vu des moyens qui existent, on a été obligé d'en sélectionner un petit nombre qui sont aujourd'hui diplômés, qui travaillent sur le continent. Certains ont créé des start-up, d'autres travaillent dans le secteur public, d'autres ont rejoint des grands labos de développement. Par exemple, certains sont devenus mes collègues aujourd'hui. Mm-hmm. Et la deuxième itération de ce programme, cette année, nous n'avons pas encore rendu les résultats des sélections, mais nous avons déjà reçu 5000 candidatures.
Mm. Il y a une vraie appétence.
Il y a une vraie appétence. Maintenant, la question qui se pose, c'est... Nous ne pourrons sélectionner que 50 à 100 candidats parmi ces 5000 candidatures. Où vont les autres? Et que font les États pour transformer l'éducation supérieure et intégrer cette nouvelle donne et ces nouvelles matières dans le curriculum existant?
Est-ce qu'il y a au moins un frémissement dans ce sens-là? Est-ce que vous sentez que les dirigeants commencent à regarder encore ces curricula en se disant, voilà, il va falloir qu'on l'adapte au marché, aux attentes aujourd'hui?
Encore une fois... Ça ne se passe pas au niveau des dirigeants, justement. Moi, j'aide certaines universités sur le continent à créer des programmes ou des spécialisations en intelligence artificielle. J'en aide au Ghana, au Sénégal, etc., ailleurs. Mais par contre, ça vient de volonté, ça provient de la volonté des autorités universitaires, souvent même à des niveaux très inférieurs, des chefs de section ou des chefs de département.
Mais qu'est-ce qui empêche qu'ils le fassent? Est-ce parce que c'est coûteux ou parce qu'il n'y a pas de formateurs?
Il y a les deux. Ça peut être coûteux, parce que pour faire de l'intelligence artificielle, en tout cas pour certaines disciplines dans l'intelligence artificielle, requiert une puissance de calcul qui n'est pas à la disposition de tout le monde, même si aujourd'hui il est de plus en plus facile d'avoir des ressources dans le cloud, comme on dit. Nous, par exemple, nous offrons des ressources gratuites de calcul dans le cloud à tous les étudiants qui en font la demande. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement l'expertise dans le monde en intelligence artificielle n'est pas très importante. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui montrait qu'en réalité il n'y a pas plus de 5000 experts en intelligence artificielle qui pratiquent la discipline et qui la font avancer. Donc, si vous considérez qu'il y en a 5000, si les grandes, ce qu'on appelle les grandes nations, excusez de le dire comme ça, si chacune d'entre elles prend sa part, nous risquons d'être attributaires de la portion congrue dans l'histoire. Donc, il nous faut former nos propres jeunes à cette discipline. Donc, justement, ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est que nous avons recours à des formateurs étrangers. On ne peut pas donner tous les cours. Moi, je donne une partie des cours. D'autres, comme Abdoulaye, par exemple, qui a enseigné dans le programme de master, donnent d'autres cours. Donc, nous faisons appel à une partie de notre diaspora. Mais nous sommes obligés aussi de faire appel à des formateurs qui viennent d'ailleurs. Et ce que nous souhaitons, c'est que ça ne soit pas la règle, que ça soit une situation transitoire et qui conduise à former des gens qui, demain, seront eux-mêmes les formateurs si on arrive à retenir ces talents sur le continent.
Et comment faire pour retenir ces talents sur le continent lorsque l'on sait que les grandes firmes les récupèrent rapidement lorsqu'ils voient qu'ils ont du talent? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est pas un rêve?
C'est très possible, Alain. Moi, par exemple, j'ai été en partie formé ici. Moi, j'ai fait des maths à l'université. Après, je suis parti, j'ai travaillé à Facebook, maintenant à Google, mais je suis rentré chez moi. Et il y en a parmi ces jeunes-là d'autres qui ne partiront même pas. Je crois que c'est une excellente question pour et Rebecca et Tidiane, parce que tous les deux connaissent l'écosystème mieux que moi. Ils créent des entreprises et ils financent des entreprises.
Alors on va poser la question à Rebecca. Comment faire pour retenir quelqu'un sur place lorsqu'il a déjà été bien formé et que les grandes firmes débarquent en se disant, tiens, de la ressource humaine déjà fabriquée et qui connaît le terrain? Comment faire ça?
C'est compliqué parce que on veut pas créer un environnement de travail où les gens se sentent obligés de rester. Donc il n'y a pas de contrat que moi je signe avec les ingénieurs pour leur dire ok, après la formation vous êtes obligés de rester 3 ans, etc. À la fin, moi je veux que eux gagnent. Donc, trouver un environnement qui est positif, bien les payer, bien les encadrer, mais à la fin, s'ils trouvent leur bonheur ailleurs, il est difficile de pouvoir les retenir. Et c'est un peu... On ne peut pas voir ni l'informatique, ni l'intelligence artificielle et ses spécialités sans regarder le contexte complet dans lequel on évolue en Afrique, qui est très difficile. Les gens veulent partir, et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'informatique, les médecins, les autres scientifiques, il y a tellement de ces cerveaux qui veulent quitter le continent, et on ne peut pas le faire sans l'appui, premièrement l'appui du gouvernement.
Une volonté politique réelle.
Oui, une vraie, mais attendez, on parle de dirigeants, et est-ce qu'ils comprennent l'intelligence artificielle? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, le nombre de cartes de visite de grands dirigeants avec des adresses Yahoo. Je vous assure qu'ils n'arrivent même pas à créer des serveurs mail locaux. Donc, imaginez intelligence artificielle, on a vraiment un réel problème. Et on l'a vu avec la pandémie, ils découvrent Zoom. Ils découvrent que oui, on peut avoir des communications et ils ont du mal avec même ces outils qui sont extrêmement simples. Et ils découvrent aussi qu'on a des problèmes de bande passante. Ils découvrent qu'on a des problèmes de le coût de la bande passante, qu'on a besoin d'énergie pour se connecter et rester connecté. Et donc, l'intelligence artificielle, elle, toute seule, sans parler de l'accompagnement et du contexte complet dans lequel on évolue, il est difficile à dire que oui, on va demander aux jeunes de rester.
Il faut une vraie stratégie, une réelle stratégie qui à la fois stabilise les jeunes, mais également met l'Afrique dans le concert des nations, dans cette bataille qui est très très rude. On parle justement de cette stratégie dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On va essayer d'être le plus concret possible, le plus solution possible, puisque vous êtes des spécialistes et avez forcément une idée sur ce qu'il faut faire. On se retrouve juste après nouvelle édition du journal sur RFI.
Le débat africain. Alain Foucault.
Comment ne pas louper le virage de l'intelligence artificielle déjà largement dominée par les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft? Comment éviter, après la colonisation qui n'est pas terminée, loin s'en faut, une autre plus insidieuse? le cyberimpérialisme. Après les grandes résolutions, les craintes et la prise de conscience suscitées par le confinement et les bouleversements planétaires imposés par le Covid-19, l'Afrique peut-elle encore rattraper le train de l'intelligence artificielle? Peut-elle exister sur la carte de l'économie numérique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré aujourd'hui à la stratégie de l'Afrique dans l'intelligence artificielle. Avec plusieurs invités, plusieurs professionnels du domaine au téléphone dans quatre pays. D'abord, Rebecca Onanchon, la PDG d'Abstech, qui prépare le lancement d'une plateforme de solutions de gestion basée sur l'intelligence artificielle, société basée à Washington DC. Second invité de ce plateau, consacré à l'intelligence artificielle, Tidiane Dem, le directeur général à Partech Africa, société dédiée au financement, aux levées de fonds pour les startups africaines. Notre troisième invité en direct de Montréal au Canada, Abdoulaye Baniré Diallo. Il est le directeur du laboratoire de bioinformatique de l'Université du Québec à Montréal. Il est le cofondateur de My Intelligent Machines, une startup intégrant génomique, bioinformatique et intelligence artificielle. Notre quatrième invité en direct de Dakar au Sénégal est Moustapha Cissé, le directeur de Google Artificial Intelligence au Ghana et directeur du programme Master en Machine Intelligente au Rwanda. Alors, le continent est pratiquement vierge en termes d'infrastructures numériques orientées vers l'intelligence artificielle. Seul le Kenya, à ma connaissance, est à ce jour le seul à développer une stratégie en la matière. Pourtant, l'Afrique a un énorme potentiel pour explorer les applications de l'intelligence artificielle et inventer de nouveaux modèles d'affaires et de services. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Là, je me tourne vers Tidiane Dem. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe qu'on ait des gens, mais qu'on soit les derniers de la classe?
Alors, excusez-moi, ma réponse va être un peu longue et je vais me faire interpréter mes camarades autour de la table. Mmh.
On va faire court parce que en radio, c'est souvent très très court, malheureusement.
D'accord, je vais essayer. Nous vivons une période transitoire où, comme je le disais, les applications sont de plus en plus évidentes et concrètes et monétisables. Et donc, nous voyons deux, trois phénomènes. D'abord, aujourd'hui, un spécialiste en data science, en intelligence artificielle sur le continent, il n'y en a pas beaucoup, ils sont payés très très cher. Nos startups payent 8 000 à 10 000 dollars par mois un data scientist avec quelques années d'expérience. Et je pense que ce sera le premier moteur pour inviter les jeunes à se former.
Ah oui, c'est plutôt bien payé sur le continent, c'est même très bien payé.
Et c'est un moteur potentiel de retour de la diaspora formée sur le continent. Là, j'interpellerai mes amis Abdoulaye et Moustapha. Mm-hmm. Est-ce que 10 000 dollars, cela suffit à votre avis pour faire rentrer quelqu'un de la diaspora? Le deuxième élément que nous voyons, c'est que ces jeunes-là sur le continent ont besoin de s'exposer à des seniors qui ont de l'expérience, qui vont les former. C'est très important pour eux au-delà de l'argent et ils doivent trouver ces seniors-là, les rencontrer, travailler avec eux. C'est quelque chose qui est très difficile quand on est assis à Dakar, à Abidjan. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes migrer vers l'Europe juste pour avoir cette expérience-là, non pas pour l'argent. Et enfin, pour moi, le troisième élément, c'est que nous avons parlé plusieurs fois des États et de leur rôle à jouer, mais est-ce que nous, l'écosystème, savons articuler auprès de nos dirigeants politiques quelque chose de beaucoup plus compréhensible qui serait sous la forme de « si vous investissez tant dans la formation de ces ressources-là, vous générerez tant de croissance et tant d'emplois ». Moi, je pense que nous devrons être capables d'articuler ça. En tant qu'investisseur, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les startups africaines font appel à de l'expertise étrangère, à des data scientists assis à Londres, aux US ou en Asie, et donc les payent très cher pour faire ce travail-là. Et ce sont des emplois perdus et des ressources perdues pour le continent.
En gros, il faut investir un peu sur la formation et sur l'avenir.
Oui, et nous sommes prêts à le faire dans le monde privé. Et comment pouvons-nous articuler une proposition qui rende faisable pour les autorités publiques?
Justement, on parle d'autorités publiques qui ne se projettent pas dans l'avenir. Or, tout ceci demande une vraie stratégie. Alors, vous qui vivez dans cet écosystème, c'est quoi la stratégie urgente à mettre sur pied pour éviter le cyberimpérialisme qui menace l'Afrique? Là, je m'adresse à Abdoulaye Baniré Diallo.
Dans la première partie, on parlait beaucoup de volonté politique. Mm-hmm. Donc, cette volonté politique-là doit s'accompagner d'une stratégie nationale et même supranationale des États. Comme Tidiane le dit, on l'articule dans le secteur privé pour que les dirigeants le comprennent, mais ce serait bien d'avoir les spécialistes d'origine africaine et d'autres amis de définir un pan de cette stratégie-là et de l'élaborer pour être partagé à certains des dirigeants. Parce qu'on parle d'exemples simples, on parle de données lorsqu'on utilise l'IA, mais les régulations par rapport aux données d'abord ne sont pas clairement définies. Avant même de parler d'infrastructures, d'écosystèmes et tout, il y a plein d'éléments à mettre en place dans cette stratégie-là Et je pense que les États ont besoin d'un accompagnement pour définir cette stratégie.
Absolument. C'est ce que disait à l'instant Tidjian Dem, c'est-à-dire que, est-ce que ce ne sont pas des spécialistes comme vous, des gens qui comprennent le mécanisme et l'écosystème, qui doivent proposer cela aux États, arriver avec des choses très très claires qu'on présente à des dirigeants qui peuvent l'adopter ou non?
Je pense que oui. Je pense que c'est à des spécialistes d'amener cette stratégie-là et de le proposer aux États.
Alors, vous êtes des spécialistes. Est-ce que vous arrivez à vous concerter et à faire quelque chose à proposer à ces États-là?
Il y a des différents groupes qui sont présents sur le continent, qui travaillent. Par exemple, si on prend l'exemple de Data Science Africa ou Deep Learning Indaba, ou même au niveau du EMI programme que Mustapha dirige, il y a beaucoup de choses qui émergent. Ça prendrait une sorte de leadership autour de ça pour définir des stratégies de présence. Je ne suis pas au courant d'initiatives de cette sorte-là, mais le besoin y est. Et je pense qu'il faut le faire très rapidement.
Alors, Rebecca, on dit beaucoup, oui, ils nous parlent d'intelligence artificielle, ils arrivent et nous font des reproches, mais ne nous font pas de propositions claires. C'est quoi les propositions à faire? Est-ce que vous ne devriez pas, en tant que spécialiste, ceux qui vivent dans cet environnement, dire « réunissons-nous et proposons ceci à tel ou tel État ».
On le fait, et je pense que pour moi, la meilleure stratégie, c'est de travailler à travers les hubs, les tech hubs, qui sont répandus sur l'Afrique. On en a documenté environ 600. Nous avons un réseau qui fonctionne très bien, qui s'appelle AfriLab, qui regroupe plus de 200 de ces tech hubs sur 45 pays et qui soutiennent une communauté de plus d'un million d'entrepreneurs africains. Et je pense que ce qu'on peut faire, donc, c'est de créer un programme qui sera organisé, qui pourra être organisé au niveau de AfriLab, donc, et qu'on envoie donc pour l'exécution dans les pays différents. Ce qui permet aussi que si on trouve un expert qui est basé au Cameroun, il peut aussi soutenir des jeunes qui sont basés à Madagascar, par exemple. Je pense que en travaillant ensemble de manière supranationale, comment on dit ?
Supranationale.
Supranationale, mais pas nécessairement par les États qui ont des lenteurs qu'on comprend. On commence déjà une dynamique et en espérant que soit des entreprises comme les Google et les Facebook ou nos entreprises africaines soutiennent ces initiatives en attendant que le gouvernement vienne mettre son appui. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être fait de manière concrète assez rapidement et déployé assez rapidement sur le continent en passant par nos hubs.
Alors, il va falloir se mettre au travail assez rapidement, comme vous le dites. On parle beaucoup de manque de moyens pour les startups africaines qui semblent pourtant pleines de bonne volonté. Alors, on sait que les banques sur le continent ont beaucoup de mal à intégrer ce schéma qui n'est pas traditionnel. Les jeunes n'ont pas de titre foncier à déposer en garantie. Alors, comment financer toutes ces startups avec des belles idées comme il y en a? Là, je me tourne vers Mustapha Cissé.
Ça, c'est une grosse question. Effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec vous que certainement les banques ne sont pas l'instrument de financement qu'il faut. En tout cas, ils n'ont ni la flexibilité, ni le goût pour le risque que demandent les startups, ni même l'accompagnement qu'il leur faut.
Et peut-être pas les moyens aussi, non?
Ça, j'en doute. Permettez-moi d'en douter.
Puisqu'ils vous disent qu'ils ont des moyens à court terme seulement, qu'ils n'ont pas du long terme, ils n'ont pas assez de moyens pour le long terme.
Oui, mais si c'est des banques, par définition, ils doivent avoir des moyens sur le long terme. Ce ne sont pas des caissiers, c'est des banques. Donc, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Bon, heureusement, il y a de plus en plus d'instruments de financement, notamment des VC. Comme Partech avec
justement,
Tidiane et d'autres
qui
travaillent sur le continent.
Justement, Tidiane, la question vous est adressée, Tidiane Dem, vous de Général Partech Africa, quel conseil, comment faire pour financer? Déjà, est-ce les banques qui doivent financer, puisqu'elles disent qu'elles n'ont pas de ressources longues? Qui doit financer ces startups?
Alors, pour moi, il est clair que ce n'est pas le rôle des banques de financer les startups. Ce n'est pas leur rôle en Afrique, ni en Europe, ni aux US. Cela requiert des instruments financiers qui savent gérer le risque lié aux startups et c'est ce que nous faisons, c'est notre rôle. Et je dois dire aussi que l'argent pour le capital risque est disponible, du moins à certains niveaux. L'année dernière, sur le continent africain, 2 milliards de dollars ont été investis dans des startups africaines.
2 milliards
pour
de
moi,
dollars
2 milliards de dollars ont été investis dans près de 258 startups africaines qui ont reçu toutes des tickets de financement supérieurs à 200 000 dollars, donc plus de 100 millions de francs CFA par entreprise. Et ce financement est là et il augmente chaque jour. L'année d'avant, c'était 1 milliard, cela a doublé.
Cet argent vient d'où ?
Cet argent vient, hélas, et c'est là le problème, vient dans la très grande majorité d'investisseurs qui ne sont pas basés sur le continent.
Évidemment.
Qui ne peuvent donc investir que dans les entreprises une fois qu'elles ont atteint un certain niveau de maturité et sont visibles de l'extérieur. Et donc, pour moi, les acteurs locaux doivent se concentrer dans la construction de ce que nous appelons l'étage inférieur de la fusée, c'est-à-dire quand l'entreprise a besoin d'un investissement inférieur à 100 millions de francs CFA, elle doit trouver de l'accompagnement local avec beaucoup de coaching, c'est ce que nous appelons l'investissement en seed. Et aujourd'hui, les États peuvent jouer un rôle extrêmement important dans le développement de ces investisseurs de seed en développant des incentives, des motivations pour ce genre d'acteurs, parce que ces acteurs-là doivent être locaux. Il est très difficile pour un jeune Sénégalais avec son accent très fort ou pour un jeune Nigérian qui parle d'une certaine manière, qui n'a jamais eu des contacts à l'étranger, de prendre l'avion et d'aller trouver un investisseur à Paris pour moins de 100 millions de francs CFA. Nous devons mobiliser pour cela de l'épargne locale et des acteurs locaux.
Oui, mais lorsque vous dites de l'épargne locale, on passe encore à la question des banques.
Non, pas nécessairement.
Puisqu'on voit mal les États mettre ça à disposition.
Alors, je vais donner un exemple concret, puisque vous avez parlé de solutions. Aujourd'hui, pour faire un fonds d'amorçage, de seed qui est investi à ce stade-là, il faut quelque chose comme 10 millions de dollars. L'équipe qui doit le faire est typiquement une équipe qui n'a jamais fait de l'investissement avant et qui doit donc gagner la confiance des investisseurs. L'État peut jouer un rôle à ce moment-là en prenant une partie de l'investissement et en jouant un rôle de garantie pour permettre à ces fonds de se développer localement. C'est ce qui s'est passé en France. La BPI a eu un programme extrêmement ambitieux et agressif il y a 10 ans dans le cadre du Fonds national d'amorçage qui a permis le développement d'un très grand nombre d'investisseurs en phase d'amorçage en France qui est à l'origine de toute l'explosion aujourd'hui de la French Tech dans le monde. Nous avons besoin de ce programme en Afrique. Les gouvernements aujourd'hui annoncent des grands montants d'investissement dans le numérique qu'ils vont distribuer en saupoudrage sans aucune expertise dans l'investissement. Moi, je les appelle à utiliser cet argent-là pour créer des nouveaux fonds d'investissement locaux qui vont lever de l'argent privé en plus de l'argent public et qui, dans 3-4 ans, n'auront plus besoin de l'argent privé, de l'argent public, pardon. Et ce serait une solution beaucoup plus pérenne que du saupoudrage qui risque d'être détourné à des fins politiques, la franchise.
Évidemment, on connaît la pratique. Alors, pour faire comprendre les enjeux et les risques liés à l'intelligence artificielle, parce que quand on a beau dire, il faut une volonté politique, le rôle des leaders dans le domaine comme vous, n'est-il pas de former d'abord les dirigeants, de faire des séminaires de qualité, les sensibiliser aux menaces et aux gains que peuvent en tirer leur continent? Là, la question est pour Rebecca. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'employer à aller vers les dirigeants pour les former, pour leur faire comprendre que c'est utile, que c'est important et qu'ils peuvent y gagner?
Je veux pas répondre. En fait, j'essaie d'être diplomate. C'est pas mon fort, mais disons que les séminaires ne sont pas très utiles pour nos dirigeants. C'est souvent une question d'avoir des perdièmes, etc. Et il y a plein de séminaires et plein de conférences. Moi, je propose plutôt que, surtout qu'on a traversé une période de Covid, donc beaucoup de conférences et de séminaires qui étaient prévus ont été annulés. Mmh. Et qu'on prenne ces budgets-là et qu'on les mette dans le fonds d'amorçage dont a parlé Tidiane. Mmh. Parce que je pense que là, c'est important. Là, c'est vraiment important. Ils n'ont pas besoin de complètement comprendre la totalité des détails sur l'intelligence artificielle pour comprendre qu'il faut absolument financer les startups, il faut absolument financer l'innovation et que cette innovation, elle ne se finance pas à cours de conférences et de séminaires, de commissions. C'est vraiment, il faut mettre de l'argent dans les startups. Je pense que nous, localement, en tant que, on voit ça de plus en plus dans les pays africains, en tant qu'individu, on essaye de mettre un peu d'argent dans des startups pour investir, ce qu'on appelle le angel investing, qui est en train de grandir de plus en plus sur le continent africain et est le premier, je pense, le premier investissement hors de la famille en général que les start-up peuvent avoir. Et donc, non seulement ces investisseurs qui mettent un peu d'argent tout au début, c'est un apport financier, mais c'est aussi beaucoup de conseils et c'est l'ouverture à leur réseau. Et je pense qu'un soutien aussi, peut-être fiscal par exemple, pour les angel investors par les gouvernements serait utile. Il y a un manifesto qui s'appelle, c'est un document qui a été co-créé par la communauté, par l'écosystème tech africain. C'est I for Policy, donc I et puis 4 et puis policy en anglais, .org. Le contenu du document y est, pour dire voilà la politique dont on a besoin, voilà les mesures d'accompagnement dont on a besoin de nos gouvernements pour réussir dans l'économie numérique. Donc c'est un travail qui a été fait par plus de des participants de plus de 50 pays africains pour dire à nos dirigeants voilà comment vous pouvez nous aider et les dirigeants donc peuvent se baser sur ce document comme document de travail. Mais je pense que demander à des privés de faire des séminaires pour les publics pour leur expliquer ce qu'ils devraient faire avec l'argent public, je ne suis pas sûre.
Et puis ils ont déjà le document dont vous parlez. L'autre aspect que l'on évoque souvent, c'est de dire quand on dit intelligence artificielle, c'est multidisciplinaire, il y a beaucoup de choses. Est-ce que l'idéal ne serait pas de se regrouper et de se spécialiser, Mustapha Cissé?
Je veux dire d'abord que les fondations, en tout cas les fondamentaux scientifiques qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle existent déjà en Afrique. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. J'ai dit tantôt qu'il s'agissait de mathématiques et d'informatique et on a toujours eu d'excellentes écoles de mathématiques en Afrique. Certains des étudiants que nous recevons au programme de master qui viennent du Sénégal, du Cameroun ou peu importe, ont une excellente base en mathématiques. Le problème, il est du côté de l'informatique généralement, parce qu'ils accèdent
à l'outil
très tard. Exactement, ils accèdent à l'outil informatique très tard, ils ne sont pas assez formés, et on sait que certaines de ces connaissances-là s'acquièrent sur le long terme. Donc, faire cette transition-là, beaucoup plus tôt et importante, et ça nous ramène encore à la discussion sur la politique publique. Quel est le rôle de la puissance publique? Moi, je pense fondamentalement, et Tidiane et Rebecca l'ont dit, et Abdoulaye avant, que le rôle de la puissance publique de l'État, c'est de créer les conditions pour qu'émergent les talents. Une fois qu'on a cette masse critique, beaucoup des discussions qu'on a en ce moment n'auront plus lieu d'être. Et créer les conditions d'existence de cette masse critique, c'est d'abord de financer l'éducation supérieure dans ce domaine, mais aussi de faire en sorte que les startups, c'est-à-dire le peu de personnes qui ont les capacités de créer de la valeur avec la connaissance qu'elles ont acquise, puissent avoir accès à ces financements, particulièrement au niveau CID, c'est ce que disait Tidiane. Donc, ces instruments de financement n'existent pas aujourd'hui. Et ça, ce sont les points où les États peuvent aujourd'hui faire quelque chose. S'ils veulent des conseils pour faire quelque chose, c'est action, comme disent les Anglais, c'est actionable. Ils peuvent faire quelque chose tout de suite et avoir un maximum d'impact. Malheureusement, quelquefois, nous ne pouvons que constater le contraste qui existe entre le bouillonnement dans la jeunesse, et l'intérêt qu'il y a pour tout.
Et l'intérêt qu'on leur accorde. On espère qu'ils auront compris après la pandémie du Covid et avec les enjeux qu'il y a, que c'est urgent et qu'il va falloir s'y mettre, que vous allez pouvoir discuter, qu'on va consacrer un peu plus, on va dire, de moyens et une vraie stratégie à l'intelligence artificielle. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débat. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui, ça va vite et il y a pourtant beaucoup de choses encore à dire. On a parlé des spécialisations, j'espère qu'on se reverra pour en parler. Merci à vous en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.